Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre invitation et votre présence cet après-midi. Merci à Dieu de nous accompagner. Merci pour les louanges à la gloire de notre Seigneur. Donc il y a deux semaines, nous avons commencé à voir ensemble le ministère et notamment le ministère déséquilibré. Hein, qu'est-ce qui faisait qu'un ministère pouvait être déséquilibré ? Aujourd'hui, nous allons partir sur un ministère équilibré. Alors ne me dites juste pas que c'est l'inverse de ce que nous avons vu ensemble la dernière fois. Il faudrait quand même essayer d'aller un peu plus loin dans notre réflexion. Alors je rappelais aussi la dernière fois que chacun a une place très importante dans l'assemblée de notre Seigneur. Pour la croissance, pour l'enseignement, pour les échanges, pour le partage de la parole, pour aussi rayonner sur les personnes qui sont autour de nous. Parce que chacun a reçu au moins un don du Saint-Esprit. Et chacun, ce don, doit le mettre au profit, au bénéfice des uns et des autres. Et c'est pour ça que je vous ai amené à cette réflexion. Nous sommes tous ministres du Seigneur. Nous avons tous un ministère. Donc dans cette réflexion, nous sommes tous concernés et toutes concernées. Les dons s'exercent dans l'assemblée sans jalousie, sans supériorité et sans envie. D'ailleurs, ces quelques versets, à la fin, je vous inviterai à les relire. Même ce soir ou dans la semaine, et vous verrez que vous avez là-dedans le résumé de notre réflexion. Tout est là-dedans, tout est résumé. Alors ce qui va être le plus compliqué dans tout ça, c'est de mettre tout en harmonie, tout en symbiose, hein, afin que le ministère soit équilibré. L'Église n'est pas un... J'ai eu le temps d'aller faire un tour un peu sur le marché tout à l'heure. L'Église n'est pas un marché où chacun crie son bon don, on va dire, hein, et fait sa promotion. Non, chacun vient, partage, hein, comme une agape. La table au départ est vide et puis chacun met son plat dessus et chacun profite de ce que l'autre a déposé. Alors j'aimerais aussi lire avec vous dans 1 Pierre au chapitre 5, les versets 5 à 11. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à la vie éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Et puis il y a un verset aussi qui vient renforcer cela dans 2 Pierre au chapitre 1er et à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts, hein, persévérez, pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection en tant que ministre. En faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Quand on lit les versets suivants, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent quand on persévère dans l'enseignement. Et Paul l'épître Timothée dit aussi qu'il a combattu le bon combat, il a achevé la course. Ce qui peut nous faire penser à ce que le ministère est semblable à une course. L'important n'est pas comment mon ministère commence, comment votre ministère commence, mais surtout comment il va se poursuivre et comment il va se terminer. Surtout pas dans le mur. Hein. La dernière fois, on faisait allusion au fait de rouler en voiture à une vitesse extrême, on ne voit plus rien. Les choses vont tellement vite, on n'est plus capable de regarder à droite, à gauche, on n'a plus de recul et on peut être incapable de voir l'obstacle qui se dresse devant nous. Alors, voyons quelques points ensemble. Ces points, on les retrouve dans 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 1 à 18. Alors, je ne vais pas vous les lire, hein, je vous laisse le soin de lire ça pour vous. Donc, 2 Corinthiens 4, versets 1 à 18. Voyons quelques suggestions pour bien terminer sa course, pour continuer à avoir un ministère équilibré. Alors, souvenons-nous déjà de la miséricorde de Dieu. Dieu nous a donné nos ministères. Nous n'avons pas à prouver notre valeur au travers de notre ministère. Et non plus nos erreurs ne doivent pas nous stopper. Nous n'avons pas de place à gagner en tant que responsable. Un autre point, soyons sincères et honnêtes dans tout ce que nous faisons. Soyons intègres, car l'intégrité produit la puissance dans notre vie. Alors que à l'inverse, la culpabilité anéantit notre énergie. Que notre réputation reste intacte, même s'il y a des attaques. Restons intègres et droits. Et dans notre intégrité inclut la connaissance de la parole de Dieu. Il est très important de connaître, d'apprendre à connaître la parole de Dieu, savoir ce qu'il y a dedans, pouvoir le partager. Déjà le vivre pour soi-même, mais pouvoir le partager aux autres. Parce qu'il est très important de ne pas déformer ce qu'il y a dans la parole de Dieu, afin de ne pas se tromper soi-même et de ne pas tromper les autres. La bonne connaissance. Il vaut mieux ne pas parler de quelque chose que l'on ne connaît pas, plutôt que de mal l'expliquer. Soyons motivés, un autre point, à travailler pour Jésus. Hein, la ferveur, le zèle, le bon zèle, hein, disait Paul. Hein. Soyons motivés à travailler pour Jésus et non à cause de nos propres désirs qui font l'effet inverse. Nous avons besoin d'une motivation, d'un zèle vrai et sincère. Apprenons à vivre pour l'auditoire unique de Jésus-Christ, d'abord, avant de s'adresser aux autres. Un autre point, ne jamais oublier que le chrétien est avant tout un être humain. Dans nos rapports, dans nos relations, en tant que chrétien, n'oublions pas que nous avons en face de nous des êtres humains, pas des robots, pas des robots chrétiens. Nous devons accepter déjà nos propres limites, mais aussi reconnaître les limites et accepter les limites des autres. L'échec qui se dresserait devant nous serait de confondre vitesse et précipitation. Nous ne sommes pas des supermen du Seigneur. Faisons ce que nous avons à faire à l'instant où cela nous est demandé. Grandissons. Hein, là, il y a un bébé là-bas au fond. Eh bien, il faut lui laisser le temps de grandir. On ne va pas lui demander déjà de donner son témoignage maintenant. Il faut lui laisser le temps. Il a ses limites, nous avons nos limites. Le tout, c'est de grandir en harmonie. Un autre point, soyons remplis d'amour les uns envers les autres. L'Église, une Église qui vit dans l'amour, c'est une église qui grandit, qui prospère, qui s'épanouit. C'est une église qui attire, parce que l'amour attire. Hein, les querelles et l'indifférence rejettent, hein, c'est un phénomène dément. Mais l'amour attire. Alors, je ne vais pas vous refaire un Corinthiens 13, hein, je pense que vous êtes capable de vous souvenir, pour ceux qui ont déjà lu. Ben sinon, je vous invite à lire, hein, très très enrichissant. Aimons-nous les uns les autres pour que les dons et le ministère de chacun durent et se terminent dans de bonnes conditions, où on est capable de faire un bilan positif de notre ministère. Un autre point qui est très important, c'est, tout à l'heure on parlait de rapidité, de se prendre pour Superman, de vouloir tout révolutionner en un clin d'œil. Nous avons besoin, et cela est important et essentiel, de prendre du temps pour se ressourcer, pour recharger notre être. Il est important de prendre du recul dans ce que nous faisons. Il est important de savoir ralentir pour mieux accélérer. Quand il y a un obstacle devant nous, il vaut mieux ralentir, regarder ce qui se passe autour de nous, afin de, hein, l'image de la voiture, afin de le contourner et de pouvoir réaccélérer après. Si je ne freine pas, c'est l'accident, et si je n'y prête pas garde, je vais passer à côté de quelque chose. Nous avons aussi besoin de s'arrêter pour contempler. Il est important de savoir si le ministère que nous partageons, comment est-il perçu, ce ministère? Est-ce qu'il permet aux autres de grandir? Et moi, par la même occasion, est-ce que j'ai vraiment le sentiment de grandir? Parce que notre ministère nous fait d'abord grandir et fait grandir les autres en même temps. et chacun permet à l'autre de s'élever, et ainsi de suite. Enfin, un dernier point, restons concentrés sur les choses importantes, sans se laisser distraire par des troubles, on va dire, passagers. Il faut garder notre regard sur le but à atteindre, sur la maison céleste qui nous attend, de notre Seigneur. Mais n'oublions pas que seul notre Dieu, qui peut voir l'invisible, peut accomplir l'impossible. Pour être un vainqueur dans le marathon du ministère, nous, chrétiens, nous avons besoin de réaliser que les gens formidables, vous êtes des gens formidables, sont simplement, avant tout, des gens ordinaires. Mais avec une détermination extraordinaire pour le Seigneur. Quand nous rencontrons des problèmes, les fuir, ça reviendrait à ne jamais devenir capable de ce que Dieu veut que nous devenions. Il n'est pas bon de fuir les problèmes. Il faut les affronter avec la parole de Dieu pour pouvoir les résoudre et grandir, toujours grandir. Alors, à l'exemple de Jésus qui est venu pour servir et non pour être servi. Voilà un ministère, encore un des points d'un ministère équilibré. Évidemment, pour qu'un ministère soit équilibré, il faut que moi aussi je sois équilibré. Je ne peux pas avoir un ministère équilibré si je suis en désordre à l'intérieur de moi-même. Cela nous fait penser à une balance. Quand elle penche d'un côté ou quand elle penche de l'autre, ce n'est pas le bon équilibre. En tout état de cause, pour avoir un ministère équilibré, nous avons besoin d'un ingrédient qui s'appelle la sagesse. Souvenez-vous de Salomon. Si nous n'avons pas cette sagesse, ou je dirais plutôt, si nous en manquons, si nous en voulons plus, il suffit simplement de demander à Dieu de nous accorder cette sagesse, afin de bien garder à l'esprit que nous désirons ardemment avoir un ministère équilibré. Voilà, que Dieu bénisse sa parole et la rende fertile en nos vies. Amen.